France Culture.
C'est peut-être le nouveau centre du monde, l'Indo-Pacifique, foyer des tensions présentes et à venir, cœur de l'économie mondiale, en contribuant à plus de 35% de la richesse du monde et à 70% de sa croissance. Un centre de gravité renforcé, plus encore, depuis l'élection de Donald Trump, qui entend désinvestir la relation entre les États-Unis et l'Europe pour se concentrer sur la rivalité avec la Chine. Mais comment la France se positionne-t-elle dans la région? Quels sont ses intérêts, sa stratégie? Le rôle qu'elle y joue ou pourrait y jouer, pour en discuter, deux invités ce soir. Marc Abansour, bonsoir.
Bonsoir, merci beaucoup de votre invitation.
Merci à vous d'être là, vous êtes ambassadeur de France pour l'Indo-Pacifique, auteur de cet article intitulé « Géopolitique de l'Indo-Pacifique, comprendre la stratégie française », un article qui est apparu dans la revue en ligne « Le Grand Continent ». Face à vous, Delphine Alès, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeure de sciences politiques et vice-présidente de l'INALCO, vous êtes co-autrice avec Christophe Jaffrelot du livre intitulé « L'Indo-Pacifique » qui est apparu en septembre dernier aux presses de Sciences Po. Merci à tous les deux d'être ce soir dans Question du Soir.
Le soi-disant partenariat inventé par les États-Unis est essentiellement constitué de petits cercles. Au sein de tels petits cercles, les États-Unis font passer leurs intérêts en premier. Les États-Unis prônent depuis longtemps l'Amérique d'abord. Il s'agit de créer des divisions, bien qu'ils prétendent soutenir la centralité de l'ASEAN. En rassemblant de petits groupes, par le biais d'alliances trilatérales ou quadrilatérales, les États-Unis tentent de renforcer leur domination dans la région Asie-Pacifique et d'affaiblir l'architecture de coopération centrée sur l'ASEAN. Les États-Unis ne cessent de provoquer des crises et le chaos et sont devenus la source de risques et des destructeurs de la paix et de la stabilité dans la région Asie-Pacifique.
Et en miroir de cette affirmation, de ces explications du lieutenant général à l'état-major interarmé de la Chine, le nouveau secrétaire d'État américain Marco Rubio a considéré lui comme un partisan de la ligne dure vis-à-vis de la Chine, a reçu aujourd'hui ses homologues du Japon, d'Inde et d'Australie. C'est sa première rencontre en tant que ministre des Affaires étrangères. Marc Abansour, qu'est-ce que cela signifie, cette rencontre, dans les relations entre les États-Unis et la Chine, mais au-delà, la façon dont les États-Unis abordent sa relation avec l'Indo-Pacifique?
À ce stade, je serai prudent, mais il y a le paramètre de l'imprévisibilité qui fait partie de la panoplie de la diplomatie trumpienne. Mais ce que je peux souligner, c'est que le cadre même de l'Indo-Pacifique est un cadre qui reste pertinent pour l'administration Trump. C'est un cadre qui est bipartisan. Vous venez de rappeler à l'instant, en effet, qu'il y a eu cette réunion des ministres des Affaires étrangères du Quad en marge de la cérémonie d'investiture.
Le Quad, je précise, c'est le groupe militaire et diplomatique qui réunit le Japon, l'Australie, l'Inde et les États-Unis.
Oui, absolument. Et sauf erreur, c'était lors de l'administration Trump 1 que ce format avait été élevé au niveau des chefs d'État. Et donc c'était Trump lui-même qui avait investi ce format. Ce qu'on peut dire à ce stade, c'est que la relation, en effet, Chine-États-Unis va être structurante sur l'ensemble de l'espace Indo-Pacifique. Et la question qui se pose, c'est de savoir s'il va y avoir le maintien de la volonté de stabiliser la relation avec la Chine, qui remonte à la conférence à San Francisco de la paix, où il y avait eu ce sommet entre Xi Jinping et Biden, ou si, en revanche, il va y avoir une sorte d'accentuation de la rivalité stratégique entre Pékin et Washington. Donc c'est ce dilemme, est-ce que c'est une logique de deal ou de confrontation qui va l'emporter?
Delphine Alès, comment est-ce que vous interprétez, vous, ce choix du secrétaire d'État américain, ce premier choix et cette première marque de fabrique?
Oui, il y a effectivement eu une volonté de mettre en scène cette relation que l'on veut prolonger, parce qu'elle s'inscrit effectivement dans une continuité qui ne date pas de l'administration Biden, qui ne date pas de l'administration Trump 1, mais qui date déjà de l'administration Obama. Il n'y a pas eu de véritable changement du cadre de la politique asiatique et indo-pacifique des États-Unis depuis Barack Obama, qui avait déjà annoncé un tournant, un pivot vers l'Asie, qui avait été suivi sans doute de moins d'effets que ce qui avait été annoncé annoncé initialement, mais qui avait déjà été engagé à ce moment-là. Et ce qui est assez intéressant, c'est que l'administration Trump, tout en mettant en évidence, bien sûr, cette idée d'Amérique première, de primauté des intérêts états-uniens et de primauté des intérêts états-uniens sur le droit international, hein, et le cadre du droit international dans beaucoup de situations, là, s'appuie sur la continuité de relations avec des partenaires, et donc sur un cadre qui est, par définition, certes minilatéral, ça n'est pas une organisation multilatérale, mais qui est tout de même partenariale. Il y a une volonté et une nécessité, tout simplement, de s'appuyer sur des partenaires avec lesquels on partage un agenda qui est celui de faire obstacle aux velléités d'expansion ou d'assertivité croissante de la Chine dans cet espace.
Alors, je l'ai dit, Marc Abansour, vous êtes ambassadeur de France pour l'Indo-Pacifique, mais c'est quoi concrètement l'Indo-Pacifique? C'est une notion qui peut paraître floue. On se demande si c'est une notion d'abord géographique ou géopolitique. On a même du mal à déterminer quels sont ses contours géographiques. Est-ce qu'on inclut ou non la côte est de l'Afrique? Où se termine la zone à son est? Alors expliquez-nous.
Il y a une définition géographique pour la France, pour l'Union européenne, qui inclut en effet des pays du Golfe. Donc vous avez les EAU, Oman, le Yémen. Vous avez tous les pays de la côte orientale de l'Afrique, donc de Djibouti à l'Afrique du Sud, et puis l'Asie du Sud, l'Asie du Sud-Est, l'Asie du Nord-Est, jusqu'au Pacifique Sud. Tout le monde ne retient pas cette même définition. Par exemple, les Américains incluent l'Inde, mais pas l'ouest de l'océan Indien, et évidemment toute la façade pacifique du continent américain. Ce qui est important, c'est que de bien comprendre surtout que le terme d'Indo-Pacifique est une construction géopolitique. Et si vous me permettez de prendre une analogie pour essayer de faire ressortir le ressort du terme, c'est la différence qu'il y a entre l'anatomie du corps humain dans la médecine occidentale et l'acupuncture dans la médecine chinoise.
Alors expliquez-nous.
Alors, dans vous voyez, bon, l'anatomie du corps humain, vous divisez le corps en membres, en organes, etc. Et dans l'acupuncture, en effet, vous raisonnez à partir de méridiens et de points de pression. Alors, appliqué à l'Indo-Pacifique, vous voyez bien, donc les méridiens, ce sont en effet les lignes de navigation qui sont les artères de l'économie mondiale. Donc, c'est cette notion de flux et qui est au cœur même de la notion d'Indo-Pacifique. Et les points de pression, ça peut être les détroits, ça peut être les îles. Et ce qui nous amène à revisiter même le statut des îles, parce que souvent on associait les îles à l'éloignement, à la vulnérabilité. Et or, aujourd'hui, ça devient aussi des atouts dans ces logiques de connectivité maritime, mais pas seulement pour le commerce, ça peut être pour l'énergie, ça peut être pour les communications avec les câbles sous-marins, etc. Et donc, c'est pas par hasard que le président de la République, sur ces dernières années, s'est rendu dans des îles où il y a eu des visites historiques, au Vanuatu, au Sri Lanka, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, et pour prendre en compte, en effet, aussi les attentes de ses partenaires sur l'ensemble de l'espace Indo-Pacifique. Donc voilà, donc il y a ces deux dimensions, les flux, et l'autre, celle dont on a déjà parlé, qui est comment l'Indo-Pacifique est un cadre mobilisateur pour traiter des défis liés à l'assertivité accrue de la Chine.
Delphine Alès, qu'il faut préciser tout de suite, immédiatement, parce que c'est l'angle, c'est l'objet de cette émission, la France est présente, très présente, et de diverses manières d'ailleurs, dans cette région, l'Indo-Pacifique. De quelle façon ?
Alors, la France a une stratégie Indo-Pacifique, qui était d'ailleurs la première stratégie européenne à avoir été adoptée sur cette région, qui a fait suite à la stratégie états-unienne. Ce qui est important pour la France, l'ambassadeur pourra compléter à la suite, c'est de diversifier ses partenariats et de contribuer à coopérer avec des acteurs qui sont en recherche de partenariats qui permettent de les sortir d'une relation bilatérale, parfois contraignante, avec la Chine, avec les États-Unis ou avec les deux. Donc la France est présente par l'intermédiaire évidemment de sa présence territoriale. La France a 93% de sa zone économique exclusive dans l'espace qu'elle définit, puisque on le disait tout à l'heure, l'Indo-Pacifique est un concept à géométrie variable et à géométrie variable selon les acteurs. Donc elle y a une présence. Elle y a une présence militaire qui a tendance à se renforcer. Ça fait une dizaine d'années qu'on a de plus en plus de présence navale française en Indo-Pacifique avec des passages de bâtiments, porte-avions, porte-hélicoptères, amphibies très réguliers dans la région, avec une diplomatie navale qui s'est renforcée également et qui est là aussi pour montrer que la France a une capacité à contribuer, soit sur le plan bilatéral, soit par l'intermédiaire de la coopération européenne, à la sécurité des différents acteurs de la région et notamment à une définition peut-être plus large de la sécurité que ça n'était le cas initialement dans les coopérations indo-pacifiques qui se sont mises en place dans le cadre du Quad, donc de ce dialogue quadrilatéral entre les États-Unis, l'Inde, l'Australie et le Japon, en participant notamment à consolider les capacités des États en matière de sécurité maritime, sécurité environnementale maritime, lutte contre les trafics, lutte contre la piraterie maritime. Et donc, il y a différents types de coopérations qui sont mis en œuvre à cet égard.
Alors, il faut les nommer quand même, hein, ces territoires français présents en Indo-Pacifique. Ils sont au nombre de 5, hein, la Polynésie française, Wallis et Futuna, Mayotte qui souffre particulièrement en ce moment, La Réunion, la Nouvelle-Calédonie. Marc Abansour, on l'a dit, hein, le grand défi de la région, c'est évidemment la rivalité entre les États-Unis et la Chine. Comment est-ce que la France se situe dans cette rivalité? Est-ce qu'elle est dans une position de neutralité ou bien, dans le fond, est-ce qu'elle est contrainte ou est-ce qu'elle choisit de prendre parti pour l'un ou pour l'autre?
Vous me permettrez d'ajouter les terres australes aussi. Qui sont...
Les terres australes, absolument.
Voilà. Sur le positionnement de la France, il y a une singularité. Et si je devais le résumer d'une formule, ce serait de dire pas d'équidistance entre Pékin et Washington, pas d'alignement stratégique avec Washington, et selon la formule que vous connaissez, c'est-à-dire nous sommes alliés mais pas alignés, et pas de confrontation avec la Chine. Et ce positionnement est reçu de façon très très constructive et positive par beaucoup, une grande majorité de partenaires dans l'Indo-Pacifique. Puisque...
C'est un positionnement ou c'est un non-positionnement? Parce qu'on a l'impression que par conséquent, on a du mal à situer où la France peut trouver ses intérêts et les défendre, même vis-à-vis de ces deux pays.
Alors peut-être je reviens à ce qui était évoqué, c'est-à-dire que Delphine Alès rappelait notre contribution à la liberté de navigation. Bon, qu'on voit encore aujourd'hui avec la mission qu'on appelle Clémenceau. Donc le déploiement en ce moment même du porte-avions avec 3 frégates, un sous-marin, un ravitailleur, des escorteurs étrangers, etc. Ils sont actuellement à proximité de l'archipel indonésien avec des exercices qui vont engager l'ensemble des partenaires des pays riverains sur les détroits de Malacca, de la Sonde, de Lombok, etc. Et donc ça, c'est un positionnement très clair. Nous sommes totalement engagés sur la défense de la liberté de navigation dans des zones qui peuvent être disputées. Et comme vous savez, on a à plusieurs reprises croisé dans le détroit de Taïwan ou en mer de Chine méridionale, etc. Pour autant, on a toujours insisté sur le fait que c'était en effet dans une logique de non-confrontation avec la Chine. On a une relation avec la Chine qui combine à la fois un dialogue exigeant et puis également un certain nombre de sujets qui sont parfois plus sensibles, qu'il s'agisse de nos différends sur un certain nombre de thèmes comme les droits de l'homme ou la situation dans certaines régions de Chine, ou également sur le fait de remettre en place une concurrence loyale sur les enjeux économiques et commerciaux. Mais si vous me permettez juste un point qui me semble important, parce que cela a trait à la généalogie même de notre stratégie indo-pacifique, c'est qu'il y a eu en effet un très fort investissement sur les enjeux en matière de liberté de navigation et qu'aujourd'hui, on est dans une approche beaucoup plus multidimensionnelle. Et donc, la dimension liée à la sécurité maritime est structurante, mais c'est l'ensemble des différentes dimensions, c'est-à-dire que comment on travaille ensemble avec les partenaires d'Indo-Pacifique pour réduire leur dépendance, pour renforcer leur résilience. Ça peut être dans le domaine de la santé, ça peut être dans le domaine du numérique, ça peut être dans le domaine aussi sur tout ce qui est résilience climatique, qui caractérise en fait le positionnement de la France.
Delphine Alès, je reviens justement sur ce positionnement de la France. Comment le pays se situe-t-il dans cette rivalité États-Unis-Chine?
Alors, l'ambassadeur le disait à l'instant, la France est dans un positionnement qui est de non-confrontation avec la Chine, tout en défendant ses intérêts, comme le font l'ensemble des États sur la scène internationale et dans la région en particulier, et avec les États-Unis. La France est alliée au sein de l'OTAN en particulier, mais non alignée sur une posture états-unienne. Et donc, quand on regarde la manière dont se structurent les partenariats bilatéraux ou multilatéraux qu'entretient la France avec les grands pays de la région ou avec les puissances moyennes ou moins importantes de la région, ce sont des partenariats qui sont effectivement dans un registre qui est celui de l'échange mutuel. C'est assez important. Il y a eu une inflexion de la politique étrangère de la France depuis plusieurs années dans cette région qui consiste à être dans une logique beaucoup plus partenariale que ça n'était le cas précédemment, qui consiste à essayer de comprendre quels sont les intérêts des alliés ou des partenaires de la France dans la région pour essayer de contribuer à y répondre et à élaborer des relations qui soient constructives. C'est le cas en particulier avec un des acteurs qui devient plus stratégique pour la France depuis quelques années, qui est l'Indonésie, qui fait partie des puissances moyennes, potentiellement une puissance importante de la région, 270 millions d'habitants, puissance économique importante, puissance militaire moins importante qu'elle ne pourrait l'être, mais qui est en cours de renforcement très significatif de ses capacités. Et la France contribue, évidemment. Il y a eu un certain nombre de contrats, notamment d'achat de Rafale par l'Indonésie à la France. Et je crois que la France fait partie voilà, des pays qui ont un intérêt qui est à la fois commercial, c'est évident, mais aussi un intérêt stratégique à multiplier ses partenariats et inversement à faire partie des acteurs avec lesquels l'Indonésie cherche elle-même à multiplier ses partenariats pour sortir d'une relation qui serait ou pour ne pas entrer dans une relation qui serait de dépendance avec
mais on comprend bien que la relation puisse être partenariale lorsqu'il s'agit notamment de relations économiques, mais que dire lorsque la Chine a des vues sur des territoires comme Taïwan, lorsque la Chine aussi avance sur des territoires qui ne devraient pas être les siens selon le droit international. Je pense évidemment à l'archipel des Spratlys au large des Philippines, sur lesquelles la Chine a montré des vues et avance même d'une façon extrêmement concrète. Est-ce que là aussi, Marc Abansour, la relation est partenariale et amicale ?
Alors, si vous me permettez, juste pour revenir très rapidement au partenariat de souveraineté qu'on évoquait et qui se décline dans plusieurs domaines, pour souligner le rôle de nos opérateurs, notamment l'Agence française de développement, le CIRAD, l'IRD, les instituts Pasteur et le cadre de l'Indo-Pacifique leur permet véritablement de travailler en réseau. L'autre dimension, si vous me permettez, qui me semble vraiment au cœur de la stratégie, c'est notre soutien au multilatéralisme régional.
On y reviendra dans un second temps, mais je voudrais quand même que vous répondiez sur cette question du rapport de la Chine aux autres territoires qui l'entourent, et notamment à Taïwan et aux Philippines.
Sur notre position vis-à-vis de Taïwan, elle n'a pas bougé. Donc vous savez que c'est la réaffirmation, en effet, de notre attachement à la politique d'une seule Chine, le maintien du statu quo et notre rappel que nous souhaitons éviter toute initiative unilatérale qui serait une menace de coercition ou de recours à la force qui changerait le statu quo. Ceci a été dit à plusieurs reprises, y compris au plus haut niveau, et je crois que c'est très important en effet d'avoir cette capacité à pouvoir le dire au plus haut niveau. Et comme je l'indiquais avant, comme nous ne sommes pas dans une logique d'alignement stratégique avec Washington, lorsque nous portons ce message au plus haut niveau à Pékin, cela a un impact particulier. Et donc ça, c'est ce qui aussi contribue à la singularité de la position française. Sur ce que vous évoquiez, si j'ai bien compris, c'est en fait
l'irrédentisme chinois sur
les tentatives le récif prédatrices
de l'archipel des Spratlys.
Donc, c'est précisément ce qu'on essaye de faire en mettant en place ces partenariats de souveraineté. Donc c'est le fait d'avoir la capacité à proposer aux partenaires de rentrer dans des coopérations qui vont leur redonner en effet une marge de manœuvre et donc une capacité en effet de développer une véritable résilience en effet par rapport à certaines initiatives chinoises qui peuvent soit être prédatrices soit même hégémoniques. Et ça, nous ne pouvons le faire, alors c'est pas juste la France toute seule, c'est en travaillant en effet en coordination et en coopération avec l'ensemble des partenaires affinitaires et également des autres pays de l'espace indo-pacifique.
Delphine Alès, la présence française dans la région contribue aussi à ne pas laisser s'installer une situation de fait, ce que cherche effectivement la Chine en mer de Chine méridionale. Vous évoquiez effectivement des accaparements de territoire, la poldérisation de certains archipels, dont les Spratlys que vous mentionniez. Donc tout l'enjeu de ces opérations dites de liberté de navigation, quand elles sont menées par les États-Unis, consiste à exercer tout simplement le droit international, c'est-à-dire un droit de passage et de libre navigation de bâtiments étrangers dans des eaux qui sont des eaux internationales, sans avoir à considérer que c'est un espace qui est territoire chinois, comme le revendique Pékin. Donc il s'agit également d'assurer cette présence qui permet d'éviter une situation de fait, de s'installer.
Pour qu'on mesure bien les choses, Marc Bansour, quelle est la présence française du point de vue militaire dans cet espace indo-pacifique ?
Alors, on a nos forces qui sont présentes dans notre territoire en permanence, et puis également des forces qui sont positionnées à Djibouti, à Abu Dhabi, donc aux Émirats Arabes Unis. Et sur l'ensemble de l'espace Indo-Pacifique, on doit être aujourd'hui à un peu moins de 8000 hommes. Et dans le cadre de la LPM, il y a en effet un certain nombre d'engagements
budgétaires. La loi de programmation militaire.
La loi de programmation militaire. Il y a un certain nombre d'engagements, dont certains sont déjà mis en œuvre, de renouvellement d'un certain nombre de capacités. Par exemple, avec maintenant le déploiement de patrouilleurs d'outre-mer, aussi bien en Nouvelle-Calédonie qu'en Polynésie française, et qui permettent de contribuer à exercer un contrôle sur les zones économiques exclusives des îles du Pacifique Sud. Aujourd'hui, je crois que c'est plus de 173 jours de mer par an pour, en effet, lutter contre la pêche illégale, le narcotrafic ou d'autres types d'actions illicites dans les ZEE de ces États insulaires. Et on le fait dans un format qui s'appelle le Pacific Quad, où sont présents les Américains, les Australiens et les Néo-Zélandais.
Delphine Alès, comment vous définiriez vous-même l'enjeu de cette présence militaire française en Indo-Pacifique ?
C'est une question de pérennisation, d'une part du point de vue français, hein, du droit international encore une fois de son exercice dans des territoires qui sont disputés. Donc il y a un enjeu de stabilité mondiale et de continuité de la mise en œuvre des règles de droit, et en particulier du droit international de la mer. Et il y a ensuite une question effectivement de consolidation de la souveraineté de partenaires qui sont des partenaires cruciaux dans la région, qui sont des États souverains, qui sont également en demande de démultiplication de leur partenariat avec des États européens, en particulier dans ce contexte de grande tension entre les États-Unis, la Chine et d'autres acteurs régionaux.
Je voudrais vous faire entendre la voix du président de la République, Emmanuel Macron. C'était le 27 juillet 2023, lors de sa tournée dans le Pacifique. Il était à Port Vila, au Vanuatu.
Dans la région, de nombreux prêts aux conditions léonines étranglent littéralement les développements. Les pratiques commerciales sont de plus en plus détournés de leurs fondements, les ingérences se multiplient. Il y a en Indo-Pacifique et tout particulièrement en Océanie de nouveaux impérialismes qui apparaissent et une logique de puissance qui vient menacer la souveraineté de nombreux États, les plus petits, souvent les plus fragiles.
Il faut le dire, hein, peut-être Marc Bansour, la singularité de cet espace hors norme, c'est qu'il concentre des enjeux militaires, on l'a dit, vous l'avez bien expliqué, mais aussi des enjeux économiques et commerciaux absolument immenses. Hein, je rappelle, 35% de la richesse du monde est créée en Indo-Pacifique, 70% de la croissance mondiale est tirée par la région. Là encore, quel bénéfice la France peut-elle tirer de sa présence sur place ?
Comme vous l'avez indiqué au début, c'est en effet le centre de gravité de l'économie mondiale, et donc vous avez aujourd'hui une forte présence économique française au-delà de l'ensemble des citoyens français qui résident dans nos territoires. Je crois qu'on a plus d'un million d'expatriés français et qui sont regroupés en effet majoritairement autour de ces pôles économiques, qu'il s'agisse en effet des grands marchés comme la Chine, l'Inde, mais également en Asie du Sud-Est, qui a un véritable dynamisme économique avec un taux de croissance de plus de 5%, y compris dans les projections sur les 10 et 20 prochaines années. On est également très impliqué dans le cadre de l'Union européenne. Et comme vous le savez, il y a un certain nombre d'accords de libre-échange qui ont été conclus avec ces pays, celui avec la Corée, avec Singapour, avec le Vietnam, d'autres qui sont en cours de discussion avec l'Inde, avec certains pays de l'ASEAN. Et évidemment qui sont des cadres qui ont permis à nos entreprises non seulement d'investir beaucoup de façon beaucoup plus importante dans ces pays et également de développer des courants d'échange. Ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est aussi de générer des partenariats dans tout ce qui va être lié à l'innovation, à la sécurité économique, donc de travailler en effet sur ces enjeux de résilience avec ces partenaires. Et par exemple, vous prenez la question des minerais critiques. Vous avez beaucoup de pays de l'Indo-Pacifique avec lesquels on peut en effet mettre en place ces coopérations et essayer de travailler sur des véritables complémentarités entre des pays qui sont dotés et des pays qui ont des technologies qui permettent en effet d'exploiter ces minerais-là.
Delphine Alès, on a l'impression, on a le sentiment même que du point de vue européen, la France est pratiquement à l'avant-garde dans sa stratégie, la relation qu'elle noue aussi avec cet espace l'Indo-Pacifique. D'abord, est-ce qu'il est vrai ce sentiment? Est-ce que la France est pionnière dans sa façon de se tourner vers l'Indo-Pacifique, là encore une fois du point de vue européen? Et surtout, est-ce qu'elle ça cela permet une certaine force d'entraînement vis-à-vis de nos partenaires?
Alors la France a été pionnière dans l'emploi du terme Indo-Pacifique par rapport aux autres acteurs européens. L'emploi de cette notion a permis de donner une cohérence à la politique asiatique de la France, qui était plutôt une agglomération de relations bilatérales qu'une véritable stratégie à dimension régionale. Ceci étant dit, d'autres acteurs étaient déjà présents avant nous dans la région et avaient notamment des relations bilatérales plus approfondies avec les acteurs émergents de la région. Donc ça n'est pas parce qu'on a peut-être donné une cohérence à une stratégie régionale dans cette configuration-là qu'on est vraiment précurseur sur le fait de nouer des relations dans la région. En revanche, il y a une singularité de la France par rapport aux autres acteurs européens qui est la présence de territoires français dans cet espace et donc le fait de définir la zone en fonction de l'étendue du territoire de la France dans l'océan Indien comme dans l'océan Pacifique, qui fait que les dirigeants français ont pu, ou représentants de la France ont pu à plusieurs reprises parler de la France comme un pays de l'Indo-Pacifique ou de l'Asie-Pacifique, si on revient au vocabulaire précédent. Ça n'a pas toujours été très bien perçu par les partenaires régionaux, qui n'ont pas forcément toujours très bien perçu le fait que la France se présente comme une puissance de la région. Je pense que c'est maintenant beaucoup plus passé dans le vocabulaire courant, notamment parce qu'il y a une aspiration à cette coopération. Et encore une fois, la France fait partie des États qui sont crédibles en tant que partenaire en dehors des très grands acteurs avec lesquels les relations sont considérées comme plus contraignantes.
Marc Abansour, votre point de vue sur le sujet, est-ce que la France ou non alors est à l'avant-garde dans sa présence et dans sa manière de déplier une stratégie commerciale et militaire en Indo-Pacifique?
Delphine Alès a rappelé un certain nombre de points essentiels. Ce que j'ajouterais peut-être, c'est que nous avons été, dans le cadre européen, moteur pour que l'Union européenne se dote elle-même d'une stratégie de coopération dans l'espace Indo-Pacifique. Et ça n'allait pas de soi. Donc il a fallu en effet aussi mobiliser plusieurs États membres, l'Allemagne, les Pays-Bas. Mais aujourd'hui, vous avez, au-delà de ces trois États membres qui ont joué un rôle moteur et d'entraînement, un nombre de plus en plus accru, y compris des pays d'Europe de l'Est, des pays de l'Europe du Nord, pour s'engager en effet dans la mise en œuvre de la stratégie Indo-Pacifique. Et ce qui me semble, parce qu'il y a pu y avoir, après l'invasion russe en Ukraine, des interrogations pour savoir si les Européens allaient continuer à s'engager dans cet espace, c'est intéressant de voir que c'est aujourd'hui de plus en plus le cas. D'une part parce que il y avait en effet la perception que ce n'était pas juste un conflit en Europe et que ça engageait en effet tous les principes du droit international public, mais aujourd'hui aussi la dimension du nexus entre les deux théâtres européens asiatiques et bon particulièrement illustré avec le déploiement des troupes nord-coréennes en Russie, et j'y ajouterai aussi la prise de conscience des enjeux sur la résilience des chaînes de valeur, et vous avez certains États membres qui ont jugé opportun de déployer des capacités navales justement pour contribuer à toutes ces opérations, ces exercices de défense de la liberté de navigation. Ils ne l'avaient pas fait auparavant et ils ont vu en effet les enjeux vraiment auxquels nous étions confrontés. Et donc je crois que c'est ça qui aujourd'hui est en train de s'amplifier.
Delphine Alès, vous souhaitiez réagir ?
Ce qui frappe avec l'usage du terme Indo-Pacifique, c'est qu'il est passé maintenant dans le vocabulaire courant. Tous les pays qui ont des intérêts dans la région ont adopté une stratégie Indo-Pacifique. Donc le terme qui était perçu avec un certain scepticisme au départ est fait pour rester. En revanche, le contrepoint de cette multiplication des stratégies indo-pacifiques, c'est qu'il y a une saturation des propositions de collaboration du point de vue des pays de la région, qui n'ont pas toujours les capacités en fait, de mettre en face finalement de toutes les propositions de coopération.
Est-ce que ça veut dire que nos partenaires asiatiques trouvent qu'ils sont trop sollicités
Ils
par les Européens ?
Trop sollicités en désordre, et ça renforce l'importance d'une mise en cohérence de la stratégie européenne. Parce que quand vous avez en fait des administrations qui ne sont pas forcément pléthoriques et qui n'ont pas forcément la capacité d'absorber toutes les propositions de coopération bilatérale qui viennent avec cette multiplication des stratégies indo-pacifiques.
Marc Abansour sur ce sujet.
Je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. C'est un axe d'effort. C'est non seulement d'améliorer les mécanismes de coordination en interne au sein de l'Union européenne, mais surtout avec les autres partenaires, des partenaires affinitaires comme les Japonais, les Australiens, les Coréens, etc. J'étais l'été dernier dans un pays... donc sur la côte est de l'Afrique, pour évoquer avec eux les enjeux de sécurité maritime. Et en effet, j'ai bien vu que voilà, nous étions plusieurs pays à leur proposer de faire des formations, de les doter de certaines capacités. Et il y a tout un travail de coordination préalable entre nous, en effet, pour apporter une offre qui soit déjà... qui soit utilisable d'emblée par les autorités. Quand vous posez la question au chef des Coast Guard, des gardes-côtes, quelle est votre préoccupation majeure, il vous dit c'est en effet certaines flottilles qui sont dans mes eaux territoriales et qui se livrent à un pillage des ressources halieutiques, mais on m'a donné un bateau mais j'ai pas le carburant, ou j'ai le carburant mais j'ai pas les capacités de détecter la localisation de la flottille, et si j'ai la détection je n'ai pas non plus les outils juridiques pour intervenir et faire cesser ce type d'activité illicite.
Delphine Alès, lorsqu'on explique que la France œuvre dans la région pour défendre le multilatéralisme en Indo-Pacifique, qu'est-ce que cela signifie concrètement, faire œuvre et faire vivre le multilatéralisme en Indo-Pacifique ?
Alors, c'est pas simple de faire vivre le multilatéralisme en Indo-Pacifique parce qu'il n'y a pas d'organisation multilatérale de l'Indo-Pacifique. Ça, c'est quand même une caractéristique de la région et une différence avec ce qui pouvait être le cas quand on était dans une configuration Asie-Pacifique où il y avait l'APEC, Association pour la coopération économique de l'Asie-Pacifique. En Indo-Pacifique, il y a une multitude, un enchevêtrement de forums, de dialogues, d'exercices militaires. D'ailleurs, l'Indo-Pacifique se structure beaucoup par les exercices militaires. C'est en tout cas le cas au début. Qui finissent par former effectivement un espace régional stratégique qui est guidé par les enjeux d'ordre politique et stratégique, mais sans espace institutionnalisé. Donc la France a effectivement essaye d'abord de structurer un peu cela. Ça avait été un des axes de la présidence française de l'Union européenne d'organiser un forum ministériel Union européenne Indo-Pacifique qui se poursuit annuellement. Et puis à côté de cela, la France, comme les autres États qui ont des intérêts dans la région, est aussi engagée dans une multitude de dialogues, d'exercices, de forums qui sont à plus petite échelle. Et donc d'un côté, il y a une volonté de structurer un espace parce que le multilatéralisme a besoin d'institutions, c'est-à-dire d'espaces dans lesquels peuvent s'exprimer des désaccords, ce qui n'est pas le cas des coopérations minilatérales qui généralement sont le fait d'acteurs qui sont déjà d'accord sur un agenda. qui partagent des objectifs stratégiques et qui se mettent ensemble pour atteindre des objectifs opérationnels. Donc la France essaye de jouer un petit peu sur ces deux tableaux-là.
Expliquez-nous, Marc Abansour, pourquoi la France défend ce multilatéralisme en Indo-Pacifique. On pourrait se dire de quoi se mêle-t-elle après tout ?
Oui, juste peut-être pour poursuivre sur le forum ministériel de l'Union européenne pour l'Indo-Pacifique que nous avions initié sous la présidence française de l'Union européenne, donc en 2022, et qui est un format inédit à deux titres. Un, parce que il rassemble en effet l'ensemble des partenaires de l'Indo-Pacifique, et ensuite parce que c'est un format qui est sans la Chine et sans les États-Unis, et qui est vraiment avec pour objectif d'avoir un espace autonome de dialogue et de coopération avec tous ses partenaires. Et c'est un format qui, je pense, aujourd'hui sera encore plus pertinent dans le contexte actuel. Sur notre attachement au multilatéralisme régional, il n'y a pas seulement les organisations militaires. C'est vraiment d'intervenir encore une fois dans une dimension, enfin dans une approche multidimensionnelle, en travaillant avec les organisations multilatérales, qu'il s'agisse de IORA, donc Indian Ocean Rim Association, dans l'ouest de l'océan Indien, enfin dans l'ensemble de l'océan Indien, ou avec l'ASEAN, donc en Asie du Sud-Est, ou avec le FIP dans le Pacifique Sud. Et pour, à chaque fois, en effet, permettre à ces organisations de rentrer dans des coopérations concrètes. Et donc ça, nous le faisons en étant devenu, par exemple, membre à part entière de IORA, en étant devenu partenaire de développement de l'ASEAN. Pour le FIP, c'est plus compliqué parce que nos territoires, donc la Polynésie, et la Nouvelle-Calédonie sont membres de plein droit, Wallis et Futuna est membre associé, et le gouvernement français est partenaire de dialogue. Néanmoins, nous travaillons en effet de façon très étroite avec le Pacifique. Et ce qui est important, c'est de voir qu'aujourd'hui, on voit que ces organisations multilatérales régionales, elles-mêmes, essayent de développer une coordination. Vous avez eu, il y a un peu plus d'un an, des MOU signés entre l'ASEAN et le FIP, l'ASEAN et IORA. Donc c'est vraiment cette dimension-là qui est en train de se développer et qui a évidemment une sorte d'impact ou de résonance par rapport à d'autres formats mini-latéraux auxquels Delphine a fait référence, qui ont été mis en place aussi par l'administration Biden.
Delphine Alès, en quelques mots, il y a une expression qui est beaucoup revenue dans vos explications, c'est la liberté de navigation. Quel est l'enjeu ? Pourquoi la France, là aussi, tente de défendre ce principe-là ?
La France est attachée d'une manière globale au droit international, la liberté de navigation.
Mais pourquoi est-elle remise en cause, cette liberté de navigation,
aujourd'hui ? En fait partie, vous avez des situations dans lesquelles un certain nombre d'États, et la Chine en particulier, si on s'intéresse à la mer dite de Chine méridionale, remet en question le droit international de la mer, et donc s'accapare des territoires et essaye de contrôler qui circule, que ce soit sur la mer, dans les airs ou sous la mer, dans cet espace qui est en principe, et selon le droit international, un espace de libre circulation internationale. Donc cet attachement, il correspond à la fois aux intérêts de la France et de tous les États qui ont des intérêts commerciaux et stratégiques dans la région, le fait de pouvoir circuler sans être contrôlé. Donc il y a un intérêt direct et puis il y a un intérêt plus large qui est celui de l'attachement, encore une fois, au principe du droit international et du multilatéralisme.
Merci à tous les deux de ces explications. Marc Abansour, je rappelle que vous êtes ambassadeur de France pour l'Indo-Pacifique, auteur de cet article intitulé « Géopolitique de l'Indo-Pacifique, comprendre la stratégie française » qui est apparu dans la revue Le Grand Continent, et Delphine Alès, professeure de sciences politiques, vice-présidente de l'INALCO, co-autrice avec Christophe Jaffrelot de cet ouvrage intitulé « L'Indo-Pacifique », un ouvrage qui est apparu en septembre dernier aux presses de Sciences Po. Merci à vous deux.